Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le fond de votre monde. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est ce que coutumièrement on appelle la règle d'or. Il y a eu quelques spécialistes en études de religion, en culture, même en philosophie, qui se sont penchés sur cette maxime-là. Et ils sont arrivés à la conclusion que d'une façon ou de l'autre, tu la retrouves dans plusieurs cultures, dans plusieurs religions et dans plusieurs philosophies. À ce propos-là, les pères de Scarborough, les pères missionnaires catholiques comme vous et moi, qui ont comme charisme, un des charismes, le dialogue entre les religions. Ils ont fait des recherches et ils ont trouvé les différentes formules exprimant cette règle d'or dans plusieurs endroits, dans plusieurs religions, plusieurs cultures. Et ils sont arrivés à produire une affiche avec ces formules-là. Et l'affiche a circulé beaucoup au Canada. Elle a circulé aussi dans le monde entier. Voilà les résultats des pères de Scarborough, ce qu'ils ont trouvé. La règle d'or que tu trouves un peu partout, même dans le confucianisme, qui dit plus ou moins la même règle, qui représente ce que le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui. Voyez-vous. Alors tu as ça dans toutes les religions, mais maintenant ce que moi je voudrais faire, ce n'est pas se limiter à ce que disent les pères de Scarborough ou les autres. Je voudrais m'arrêter sur la règle d'or pour montrer quand même que toutefois, il y a une spécificité qu'on retrouve chez Jésus et qu'on ne voit pas ailleurs. Premier exemple et premier élément qui met en évidence la particularité de Jésus, c'est que cette règle d'or-là, dans la plupart de cas, dans la majorité de cas, tu la trouves formulée dans une version négative. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie, au chapitre 4, verset 15, il est dit ceci: « Ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. » Même idée, mais exprimée d'une manière négative. Plus loin, dans le judaïsme, il y a ce grand rabbin, très connu, un grand interprète de la Torah, le rabbin Hillel, qui a vécu avant Jésus-Christ, lui dit à peu près ceci: ce qui est malfaisant, ne le fait à personne. Voilà encore une version de la même règle d'or, mais une version négative. Maintenant, chez Jésus, la version est positive. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord, faites-le aussi pour eux. Ce qui veut dire que quand on revient sur la version négative, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est simplement pour dire que la version de la règle d'or, telle que Jésus la présente, est plus exigeante. D'abord, nous autres là, dans la version négative, nous ne sommes pas étrangers, étrangères, parce que nous l'utilisons beaucoup pour nos enfants. Quand les enfants se bousculent, on se dit: toi, tu mords ton petit frère, qu'est-ce que tu ferais si je te mords toi? Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu veux que je te morde maintenant? On dit non. C'est parce que les enfants, en fait, ils sont beaucoup tournés vers eux-mêmes et ils n'ont pas beaucoup de place pour les autres. Alors, quand nous portons cette version négative chez eux, c'est pour les aider à s'ouvrir davantage aux autres, à avoir dans la conscience la présence des autres, ce que nous faisons. Mais en fait, quand on réfléchit davantage, nous ne pouvons pas dire que cela se trouve seulement chez les enfants. Même vous et moi, à l'âge adulte que nous avons, eh bien, où nous sommes devenus, eh bien, des fois, nous mettons notre ego au centre. Nous vivons dans l'égocentrisme. C'est-à-dire que dans certaines situations, nous piétinons les autres, nous piétinons les autres, nous laissons de côté et nous nous mettrons au centre. Regardez, par exemple, quand nous sommes pressés en cours de route, même sur l'autoroute, il arrive des fois qu'on peut doubler les autres sans même signaler qu'on veut changer de voie, parce que nous voulons arriver à notre but, parce que nous sommes en retard ou parce que nous voulons atteindre un objectif particulier. Ça peut arriver. Dans le temps, on nous disait, écoutez, pour fumer, il faut aller à l'extérieur. Et beaucoup suivent, c'est bien, c'est réglementé aujourd'hui. Mais il peut arriver que quelqu'un, parce qu'il est à l'extérieur, il est en train d'attendre l'autobus, mais il est à l'extérieur, bon, je fume, sans tenir compte des personnes qui t'entourent. Ça, c'est se regarder soi-même, voyez-vous. Ça peut arriver que tu aimes un morceau de musique dans la maison, dans le quartier, parce que tu aimes ces morceaux-là, tu mets le volume à tue-tête. Mais tu oublies qu'il y a les autres, peut-être qu'ils n'aiment pas, mais toi, parce que tu l'aimes, tu veux l'avoir avec un volume très fort. Donc ça, c'est se regarder toi soi-même. On me racontait une histoire d'un homme qui avait la tuberculose et il exigeait que sa femme l'embrasse sous la bouche. Alors, il y a deux situations où, en fait, on se met d'abord davantage au centre et on oublie les autres. Mais quand on revient sur cette formulation négative, il faut l'appliquer, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce qui est nocif pour toi, ce qui est mauvais pour toi, l'est aussi pour l'autre. À ce moment-là, nous reconnaissons l'égalité de l'autre, nous reconnaissons que l'autre est comme nous, nous reconnaissons que l'autre a besoin de transformation, a besoin d'échange. Voyez-vous? Mais maintenant, revenons à la formulation positive de Jésus, qui est sa particularité, comme je disais. Alors, en fait, ce que le Seigneur voudrait dire, c'est que fais toujours du bien. Il ne s'agit pas de te limiter aux personnes qui te sourient. Il ne s'agit pas de faire du bien seulement aux gens de ton cercle, les gens de ta famille, les gens de ton ethnie, les gens de ton clan, les gens de ton cercle de travail. Fais du bien à n'importe quelle personne. C'est ce que le Seigneur veut dire. Que tu sois faiseuse de bien, faiseur de bien, continuellement. Et il va plus loin. Il prend la règle d'or, il l'amène plus loin. Il dit, aimez vos ennemis. Donc tu fais du bien à ton ennemi. Ça, c'est une particularité de Jésus. Tu ne trouves ailleurs. Tu ne trouves pas ailleurs. Il est dit qu'il faut ouvrir son cœur pour celui qui te fait du mal. D'abord, notre Seigneur lui-même, il ne dit pas des choses sans lui-même les mettre en pratique. Il est lui-même notre exemple sur la croix. il pardonne au bon larron. Sur la croix, il regarde ses bourreaux et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui qui a pardonné Pierre, qui a pardonné Judas. C'est celui, vous vous rappelez, quand il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, alors que Pierre voulait se venger, il dit, comment ces gens viennent arrêter mon maître, il enlève son épée, il peut taper. Pierre, remets ton auto au fourreau. Donc, comme pour dire, la non-violence, on ne se venge pas, j'accueille ces personnes qui viennent bouleverser ma vie. Mais maintenant, nous avons aussi des exemples dans le Nouveau Testament, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans la première lecture, c'est David, hein, qui en fait, on peut dire, voyait le roi Saül, le roi Saul, comme en fait son ennemi. Et il ne met pas sa main sur lui, il épargne. Et puis nous connaissons bien dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, l'histoire d'Étienne, avant de mourir, père. Parlant de ses persécuteurs, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils suivent l'exemple de Jésus. Et l'exemple le plus connu, en fait, qui nous est encore cher, c'est l'exemple classique, en fait, de Jean-Paul II, quand il est parti rencontrer dans la prison cette personne-là qui avait pointé l'arme sur lui et qui avait tiré sur lui sur la place Saint-Pierre. Donc, réconciliation, pardon des ennemis. Je regarde l'histoire de Nelson Mandela. Même si on ne parle pas beaucoup de ça, il s'est beaucoup inspiré de sa foi chrétienne et il disait aux Africains du Sud, c'est pas le moment maintenant de faire la vengeance, c'est maintenant de vivre le pardon, de regarder vers l'avenir pour transformer notre société. Martin Luther King, en fait, un pasteur baptiste, un chrétien, il s'est basé aussi sur la non-violence de Jésus, sur le non-pardon de Jésus, pour inviter les Américains, inviter les Noirs et les Blancs à marcher ensemble, à se respecter et à transformer la société. Tout cela, c'est quoi? En fait, c'est l'inspiration de l'amour de Jésus, l'amour qui va jusqu'au bout. Mais maintenant, il faudrait se poser la question, qui est notre ennemi? Qui est ton ennemi? Alors, il ne faut pas aller chercher loin. Notre ennemi, c'est celui qu'on rencontre au quotidien, celui que nous savons dans notre cœur qui nous veut du mal, celui que nous savons dans notre cœur qui raconte des faussetés, celui que nous savons que dans notre cœur, il nous maudit, celui que nous savons que dans notre cœur, il est en train de bouleverser mon foyer, celui que nous savons dans notre cœur, il est hypocrite. C'est cette personne-là pour qui le Seigneur te dit, ouvre-toi à elle. Aime cette personne. Remarquez que le Seigneur ne dit pas, prends cette personne-là, invite la personne au restaurant. Prends cette personne-là, invite-la chez toi. En fait, le fait d'inviter, ça ne dit pas grand-chose. C'est le cœur d'abord. Tu peux inviter la personne, tu dis que c'est ton ennemi. Oh, réconciliation. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas vraiment la réconciliation, c'est qu'on n'y est pas. Donc, ce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est ouvrir notre cœur à celui qui t'est maudit. Ouvrir notre cœur à celui qui te veut du mal. C'est ça. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ça, c'est la particularité du christianisme. Alors, je suis conscient, en commençant par moi, que c'est difficile de faire de la place à celui que nous savons dans notre cœur qui nous veut du mal. Et pourtant, le Seigneur nous invite à le faire parce que nous sommes des fils et des filles de notre Père. Nous sommes nés d'en haut, comme le dit Saint Paul. Nous sommes nés du baptême, nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes des dieux. Alors nous devons refléter l'image de Dieu comme on a chanté. Nous devons refléter l'image de Dieu en nous, dans notre style de vie, dans notre manière de vivre. Donc nous devons pardonner concrètement. Dans notre monde où il y a la compétitivité, où il y a la compétition, dans notre monde où il y a la haine, dans notre monde où il y a la course au pouvoir, la course à la première place, dans notre monde où on veut toujours sortir premier, où on veut écraser les autres, dans notre monde où il y a concurrence, c'est dans ce monde-ci où nous sommes appelés à aimer vraiment la personne qui est à côté de nous, même si cette personne-là nous met les bâtons dans les roues. Conclusion, demandons au Seigneur de préparer nos cœurs, de changer nos cœurs, de transformer nos cœurs, de les façonner à sa manière, pour que nous apprenions au jour le jour, même en croissant, en grandissant, que nous apprenions à aimer les ennemis. J'aime beaucoup cette prière de Paul, cette réflexion de Paul qu'on trouve au chapitre 12 chez les Romains. Il dit finalement, bénissez toujours. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous veulent du mal, dit-il. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, dit Paul. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas emporter par le mal, dit-il. Moi, je trouve que c'est une conclusion magnifique qu'on trouve chez Paul et s'inspire de la règle d'or. Voilà ce que je vous souhaite, voilà ce que je me souhaite. Demandons au Seigneur de faire de nous ses disciples le reflet de son visage, le visage miséricordieux de Dieu. Amen.